Bienvenue à l'édition spéciale DEFCON du French Connection Podcast. Cette semaine, enfin, quelques problèmes de coordination, fait que les habituels du podcast sont pas là. J'ai un invité spécial qui est Vincent.
Salut tout le monde!
Et on va vous parler un peu de ce que nous avons vécu, puis ce que nous avons vu au DEFCON
25.
Yes! Donc, une fois on est arrivé le jeudi soir, et on est allé se présenter pour chercher notre badge le vendredi matin, et ça a été le bordel.
Oui, avec seulement deux escaliers roulants pour 20 000 personnes, où on avait juste besoin d'accéder au premier étage pour l'inscription. Disons que le défi a été assez exceptionnel. Mais bon, on a fini par se rendre après quelques heures d'attente.
Ouais, mais quelle déception. J'ai eu une badge de marde, finalement, parce qu'on est arrivé un petit peu plus en retard. Fait que c'est un petit peu décevant, cet aspect-là des choses. Sachant qu'ils se doutaient bien qu'à la 25e édition, il y allait avoir beaucoup de gens. Fait que ça, c'est un petit peu plus moche, mais gars, ça fait partie de la vie. Vendredi, on a eu beaucoup de misère à accéder aux salles. On n'a pas grand-chose à en parler plus que ça. Mais le samedi, on a eu des conférences fort intéressantes, dont la première qu'on a vue, c'est qui abordait le GEA, le Just Enough Admin.
Oui, pour les administrateurs Windows, autrement dit, au lieu de leur donner des accès Dieu, si on veut, il y a la possibilité de donner des accès de façon plus granulaire, juste selon leur rôle et responsabilités dans une infrastructure définie.
Ouais, puis c'est essentiellement, ça vient recouper énormément les privilèges par échelle sur des choses qui sont.
Ouais, cette personne-là est poignée dans l'escalier roulant encore.
On fait un enregistrement de fortune à l'aéroport, donc on est un petit peu perturbé par ce qui se passe.
Ouais.
Donc le GIA, ça vient contrôler les privilèges d'accès PowerShell, ça limite les genres de calls qui peuvent être faits. Très intéressant parce que ça permet de mettre le temps et les actions qui peuvent être posées par les personnes. Donc on est quand même arrivé à un niveau de granularité qui est très, très intéressant. Mais en même temps, la personne nous abordait un certain nombre d'aspects où il fallait faire attention justement pour ne pas tomber dans des pièges où il peut y avoir des portes d'accès supplémentaire qui va apparaître. Ensuite, on est allé voir WSUS.
Ah, ben oui, le WSUS. Ce bel ami qui permet d'automatiser la gestion des vulnérabilités, en fait, de les opérationnaliser. Par contre, dépendamment de l'architecture, il y a des petits pièges à éviter.
Ça peut opérationnaliser le déploiement de codes malveillants à travers l'infrastructure.
Par exemple. Le WSUS va tout le temps faire une confirmation qu'il y a des nouveaux correctifs chez Microsoft via un canal sécurisé. Étrangement, quand il y en a, ceux-là peuvent être interceptés, utilisés avec le même nom, créer des codes binaires malicieux. Quand vient le temps de venir chercher le fameux code binaire malicieux, la machine le fait via une session HTTP qui n'est pas sécurisée. Donc, on peut hijacker la connexion, proposer les noms suggérés par Microsoft, et puis notre infrastructure se trouve en présence de correctifs qui se trouvent être notre propre code qu'on veut injecter dans l'entreprise.
C'est ça, c'est qu'on est essentiellement capable de déployer des codes malicieux à travers une infrastructure structurée fournie par Microsoft, c'est quand même bien, puisque l'exploit que les autres, cette équipe-là a réussi à faire, c'est de réussir à faire en mode offline, c'est-à-dire des divisions du réseau où le serveur WSS n'est pas exposé à Internet, qui ne parle pas au serveur de Microsoft, mais qui parle à un relais interne, une espèce de proxy interne, et est capable de relayer l'information, donc de capable de contaminer une partie non accessible normalement d'Internet des choses. Fait que c'est fort intéressant parce que ça, mais essentiellement, la défense à ça, c'est une meilleure structure, une meilleure architecture, une bonne réflexion derrière, parce que rien qui est magique, ça revient toujours à ça essentiellement.
Oui, avec un paramètre extrêmement magique où on peut, de base, autoriser toute provenance de correctifs venant du WSUS interne comme étant autorisée. Ce qui veut dire qu'il y a par défaut, on peut venir cocher, en fait, par défaut, il est crocheté au sein de l'infrastructure, mais on peut venir enlever ce crochet-là. Autrement dit, ça va prendre une interaction humaine, intelligente, on va dire, pour s'assurer que le déploiement se fasse avec des correctifs qui sont réellement autorisés. D'où l'exploit qui a été réalisé, c'est dans une infrastructure où, par défaut, le crochet de faire confiance à tous les correctifs du WSUS est autorisé pour toutes les machines. Donc, le code malicieux pouvait être déployé à bon escient, partout, sans qu'on soupçonne absolument quoi que ce soit.
À l'ensemble de l'infrastructure, par magie. Oui. Que c'est merveilleux que Microsoft nous donne des moyens aussi faciles de déployer du code malicieux. C'est fantastique.
Oui.
Ensuite, on est allé voir la conférence de Richard Timms, qui, moi, depuis que je l'ai rencontré, depuis la première fois que je l'ai vu à DEF CON 14, ce conférencier, moi, je le trouve spectaculaire. Cette fois-ci, il a abordé le privacy. Tout le fait que ça n'existe carrément plus dans l'univers auquel on vit dans un monde qui favorise des comportements qui finalement viennent miner toute notre capacité d'avoir de la vie privée. Il a fait déjà des mentions très intéressantes comme Canadien. Il a parlé justement que la Privacy Commissioner de
la Colombie-Britannique
comprenait pas tout à fait l'énoncé qu'il faisait, qui était quand même assez provocateur. Puis ça m'a un peu fasciné à quel point, parce que je pensais qu'au Canada, on était quand même bien outillé en termes de vie privée, puis ça, de toute apparence, on n'est pas si en avance que j'aimerais le croire.
Monsieur était très poli, par contre, en parlant de la commissaire, justement, en Colombie-Britannique, en voulant dire qu'elle était très, très au courant de ce qui se passe, mais je veux pas avouer, effectivement, qu'elle est consciente du problème, parce que ça demanderait à ce moment-là des actions, dont on attend leur opérationnalisation. Donc, c'est comme si le problème n'existait pas. Mention spéciale, il y a eu un problème de diffusion vidéo dans à peu près toutes les salles au DEF CON, ce qui a été fabuleux. Autrement dit, on sait pas si c'est un problème de filage, si c'est un problème de taux de rafraîchissement, si c'est un problème humain ou si c'est un problème surhumain, mais Richard Timms, dont Nicolas vient de parler, qui est un fantastique orateur, a réussi à faire sa présentation sans que les gens quittent vraiment la salle. Les gens étaient extrêmement attentifs. J'ai l'impression qu'il y avait des connaisseurs dans la salle. Fort intéressant. Il a maintenu l'attention de tout le monde. Très bon orateur, là, fantastique. Moi, je le conseille à tout le monde, by the way. Il est fabuleux.
Très intéressant. Il amène la réflexion. Il nous amène à réfléchir beaucoup plus loin que de ce qu'on est sur le niveau de la vie privée dans ce cas-ci. Pour les différentes conférences que j'ai vues, lui, il nous amène toujours à réfléchir un peu plus loin de ce qu'on est habitué de voir normalement. C'est jamais très technologique. Son approche est toujours très humaine parce qu'il y a un passé beaucoup plus dans le renseignement, beaucoup plus de choses. Fait que c'est très énormément de réflexion, ce qui est fantastique.
Puis il se base énormément aussi sur l'histoire, des cas vécus, oui. Beaucoup de philosophie. Beaucoup de grands orateurs, que ce soit la philosophie grecque, etc. C'est basé sur des, en fait, c'est basé sur des thèmes qui sont connus puis discutés, mais tout simplement dans d'autres mots selon l'époque à laquelle ils évoquent.
Tout à fait fascinant. Ensuite, on a assisté à la conférence sur Doom. Pour ceux qui sont assez âgés, faut se rappeler de ce jeu qui a quand même passionné ma jeunesse pour avoir joué en réseau, pour avoir jouer des choses fascinantes, d'avoir réussi, la personne en question a réussi à faire, sa volonté, c'est d'installer le jeu Doom sur un terminal de paiement Verifone. Là, dans ce cas-ci, c'est le terminal en question, c'était pas lui qui était spécifiquement ciblé, il peut pas dire que lui est plus vulnérable qu'un autre, mais il a montré à quel point, il y a un effort réel des fabricants de terminaux de sécuriser leur terminaux de paiement. Ce qui était très difficile, mais lui, son objectif, c'était pas d'aller voler nos cartes de crédit, c'était vraiment de vouloir jouer sur le terminal, fait que ça a été comme une aventure assez complexe, très difficile, mais il a quand même réussi à atteindre avec un certain nombre de failles et de différents éléments, de réussir à réinstaller un Doom sur un terminal de paiement.
Oui, la volonté de ce jeune-là a été fantastique parce qu'il a dû être en mesure de comprendre que, première chose, peu importe ce qu'on va faire avec ce type de terminal-là, du moment que ça redémarre, la configuration initiale revient. La configuration initiale efface toutes les traces. Ouais. Deuxième des choses, on doit y copier des fichiers. Toutefois, le mode console ne permet pas de copier des fichiers. Donc, on doit utiliser un autre moyen. Il y en a divers, mais on doit dire à la machine, faire un mount. C'est un Linux qui roule ces machines-là, ouais. Pour ceux qui le savent pas. Le mode console, oui, il est accessible. On va vous laisser la chance, comme notre orateur disait hier, d'aller sur Internet, puis faites le travail d'aller trouver les codes ouais. Par défaut. Mais il y a une possibilité de venir y insérer. On doit faire un mount, comme en Linux, pour charger le drive, le rendre accessible. Ça permet pas de copier des fichiers. Par contre, ça permet de rouler des scripts. Dans ce cas-ci, pour lui, c'était l'installation de Doom. Et puis, écoutez, la joie qu'on a eue de voir un Doom sur un écran de 4 pouces, c'était fantastique, là. Avec, by the way, c'est un terminal de paiement.
Oui.
Monsieur avait mis des codes de cheat sur des cartes de crédit. Donc, on glissait la carte et on pouvait avoir la chainsaw. Une autre carte, on était en mode dieu. Et puis, on a tous été bien contents de l'exploit. Toutefois, comme il nous a expliqué, au redémarrage de la machine, c'est terminé. C'est un terminal de paiement. Faites leur confiance. Ils ont des belles méthodes, justement, là, pour sécuriser leurs choses. Si jamais vous allez au Provigo puis vous payez avec votre carte puis c'est Doom qui démarre, voilà, posez-vous des questions, là.
Ouais, la
carte ça me surprendrait fort que ça arrive, là.
Ça serait très surprenant. Puis de toute façon, c'est que relatait le degré de difficulté qu'il y a eu à faire monter les affaires. Les concepteurs de ces machines-là ont vraiment fait un effort réel. Ils ont mis en place un paquet de mécanismes puis de contrôles compensatoires à tout endroit. Puis même au point où si un des binaires qui décode, qui arrive pour démarrer, n'est pas légitime, ils veulent le zapper carrément sans rien d'autre. Fait qu'on peut briquer relativement aisément ces boîtes-là si on essaie de faire de la manipulation puis avec du code qui est non légitime, qui est mal foutu selon les méthodes de vérification qui sont là. Fait que, en soi, c'est très intéressant de voir à quel point ça, mais c'est aussi très intéressant de voir qu'on est capable de réussir à jouer Doom sur un terminal de la sorte.
Ouais.
Et ces terminaux-là sont, pour ce qu'on j'ai vu, sont partout dans les taxis à Las Vegas. Fait que,
effectivement.
J'ai peut-être pas un hasard finalement là-dedans. Là.
Je pensais m'acheter une chaîne sans payer le taxi en venant à l'aéroport tantôt, mais non, c'est pas ça qui s'est passé. On a reçu.
Ouais, c'est peut-être les chauffeurs de taxi ont peut-être fait un peu moins drôle cette semaine d'avoir tous ces gens-là avec des idées un peu saugrenues pour exploiter les choses. Fait que ça a un peu terminé ce qu'on a trouvé dans, en tout cas, du moins intéressant le samedi. Maintenant, le dimanche, on a trouvé en tout cas personnellement un peu plus de conférences intéressantes, mais disons modérément. La première qu'on a citée, c'est finalement du fingerprinting des clients Wi-Fi. Fait qu'essentiellement, ils ont trouvé une mécanisme, comme on faisait sur le fingerprinting de OS, de réussir à identifier le device qui se branche sur un réseau Wi-Fi.
Pour être plus précis, quand on parle de device, là, on va parler d'un iPhone 4S, un 5S, un Android, un Nexus, un BlackBerry. Mais encore là, ça va juste dépendre des versions. Ça va juste dépendre de ce qui est hard-codé dans les chips des différents manufacturiers. C'est une façon, en fait, de détecter sur un réseau. Comme il y a juste deux protocoles, ça manque un petit peu de dimension, la présentation. Toutefois, ça avait un aspect intéressant. Le seul hic de cette présentation-là, il semble, par exemple, que des laptops qui contiennent différents types de cartes Wi-Fi, on est en mesure de détecter, par contre, c'est Asus, c'est une Intel, peu importe, mais on ne sait pas si c'est un laptop, un ordinateur de table, puis il y a une base de données qui semble se construire présentement, qui pourrait être réutilisée, mais omet beaucoup de choses, tellement de choses que ça...
Ouais, puis on a imposé des limitations à cette base de données-là qui fait que son utilité réelle est peut-être à la limite questionnable parce qu'ils ont évacué volontairement un certain nombre de devices, ils ont évacué un certain nombre d'informations qui, ultimement, pourraient être super utiles puis, ou de faire de la corroboration plus large que le Wi-Fi. Ils ont commencé à faire une corroboration avec les requêtes DHCP pour réussir à aller plus loin. Mais encore là, la volonté, c'est agréable comme projet, mais leur volonté d'aller pousser ça plus loin d'un point de vue sécurité, d'un point de vue discovery, elle est pas tout à fait alignée avec ce qu'on est habitué, disons, avec le Nmap où on va faire un discovery de OS. Il n'y a pas le même degré de volonté absolue de savoir.
Intéressant, mais ça demanderait d'être un peu plus intrusif, ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Mais on ne sait pas, c'est ce qu'on nous a raconté. Peut-être que ça veut aller plus loin, on le sait pas parce que le projet est fort intéressant.
Ouais, c'est une approche très, très académique aussi. Fait que il y a une approche de recherche académique. Fait que c'est peut-être pour ça que dans lequel il s'impose des limites. This is a final protocol for delay of each
airline. Là, vous avez entendu comme moi, on cherche un légionnaire, là.
Ouais. Nous avons encore des légionnaires en 2017. C'est fascinant la vie. Passons ensuite au prochain. Après le Figure Project, on a vu la chose sur le Power's Law. Power Laws. puis qui, dans le fond, lui, utilise une méthode de calcul mathématique, statistique, pour réussir à établir des outliers, des éléments un peu différents ou inattendus dans les statistiques. Puis, c'est fort intéressant parce qu'il garoche un paquet d'informations, puis à partir de ça, il est capable de détecter de façon en temps réel un dénet de service distribué, il est capable de détecter toutes sortes de comportements non légitimes, puis dans un temps assez rapide pour ça.
Je donne un exemple. C'est une machine, ça s'appelle le machine learning. C'est en fait un engin dans lequel on lui dit que des comportements qu'on juge normaux, qui sont analogues, puis du moment qu'on sort du cadre, le machine learning vient réagir en donnant des pics qui sont pas naturels. On va dire surnaturels pour la conférence en cours. On va vous donner un exemple. Quand on rentre le matin, les employés rentrent entre 6h30 puis 8h30. C'est normal qu'on ait un mouvement puis des données qui transigent de façon exponentielle au niveau, par exemple, de l'authentification. C'est normal, on rentre au travail. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on tape au clavier, on tape un mot de passe, on se log. Si une activité voulait venir s'insérer là, si j'étais un pirate, par exemple, ce serait une belle fenêtre de temps, justement, pour commencer à faire de l'injection, parce que de toute façon, les serveurs, les machines, le réseau commencent à déjà être surchargés, c'est normal, mais ça serait à ce moment-là que je viendrais insérer un code qui n'est pas, par exemple, d'authentification. La machine learning pourrait soulever un cas particulier à un moment précis qui serait pas, par exemple, de l'authentification, parce que c'est ce à quoi s'attend dans cette plage de temps-là. Là, on parle de plage de temps, on parle d'authentification. Il y a toutes sortes d'autres facteurs qui sont mis en compte dans la conférence, des choses justement fort intéressantes, ou la démonstration qui était fabuleuse, qui était justement Unreal, une machine de jeu, un serveur de jeu Unreal, où on voulait venir hacker la session justement pour un DDoS. Et puis, on voyait effectivement du lag. Et puis, on était capable de détecter de façon non naturelle des types de commandes qui passaient. Et puis, ce que le présentateur a réussi à faire, c'est de dire à la machine, quand tu vois quelque chose de non naturel, tu réagis et on rectifie la situation. Ce cas-ci, c'était commandé. C'était bien. L'idée était là, mais ça a démontré qu'il y a quelque chose qui a fonctionné. Et puis, l'attaque, le fameux DDoS, qui était assez phénoménal, a réussi à être contré dans un laps de temps fort intéressant.
Oui.
Détecté, corrigé,
c'est ça,
ramené à la situation.
C'est le degré de la rapidité d'intervention qui est très intéressante dans ce cas-ci, parce que tout ce qui sort de la courbe normale, selon le Power Laws, est capable d'intervenir très rapidement. Autant si ça vient de l'extérieur, autant si on a une machine qui est la nôtre, puis qui commence à partir d'un botnet pour attaquer ailleurs, on est capable de voir nos propres machines qui deviennent toxiques pour les autres et d'intervenir et d'empêcher nos propres machines de contribuer à quelque chose
d'ambitieux.
Mais là, t'as quand même devancé, parce que machine learning, on l'a vu plus tard dans une autre conférence en après-midi, t'as comme mélangé les deux pour avoir un sujet encore plus intéressant, ce qui fait que ultimement, peut-être les deux sujets auraient eu intérêt à
parler du gambling hacking.
À se mixer, mais là, on va skipper cela plus tard parce que tu l'as abordé, mais là, on va parler du gambling qui est en fond essentiellement les personnes qui ont présenté l'histoire du hacking, du gambling, finalement, là, comment ça s'est passé à travers le temps, là.
Oui, à partir des années 70, fin 70 jusqu'à 2016, les plus grands pirates qui ont réussi, justement, à pirater, en fait, à altérer le fonctionnement des slot machines.
Normal. Le fonctionnement normal, oui.
Le fonctionnement normal des machines à sous. Que ce soit du Keno, tout le monde a entendu parler de ça, que ce soit des machines à roulettes électroniques, il y a toujours un logiciel en arrière de ça. Ce qui est non surprenant d'apprendre, c'est que c'est pas un magicien de Poudlard qui a étudié à Poudlard qui est venu tout simplement se présenter dans un casino et puis qui a déjoué la machine. Souvent c'est des codeurs à l'interne qui fabriquaient un certain logiciel pour la routine de la machine. C'est des auditeurs qui venaient certifier des fonctionnalités des machines.
Et qui regardaient pas au complet ce qu'ils devaient regarder. Fait qu'on passait à côté de choses. Entre autres, un des cas qui nous a été le plus présenté, c'est la manipulation de du générateur de nombres aléatoires qui était souvent utilisé, où il y avait des bypass qui étaient faits par les développeurs en question. et les auditeurs ne l'ont jamais vu. Donc, ces codes-là ont réussi à être certifiés par un tiers et se rendre en production dans des machines qui étaient dans cette époque-là dans des casinos.
Et tout ça, ça fait partie d'articles de journaux. Des articles de journaux où on n'a pas entendu parler justement de ce qu'on vient de vous parler en termes de piraterie ou quoi que ce soit, mais tout simplement des gens qui se sont trouvés volontairement en face de machines, sachant qu'il y avait une faiblesse, et puis ils l'ont exploité. Ils ont gagné des gros montants, mais les ont jamais obtenus. Le juge en a décidé autrement.
Ils se sont fait pincer, mais ça, c'est ce qui arrive souvent, c'est que ces gens-là n'ont pas de sophistication au niveau de l'exécution de leurs choses. Ils font leur patente. Ils plantent leur code malicieux ou leur code d'intervention là-dedans, mais ensuite, toute l'exécution de la fraude qui va avec, c'est un échec. Ils sont pincés parce qu'ils laissent tellement de traces après ça que ça n'a aucun sens. Mais en ce sens-là, suivant le moment où est devenu illégal les machines ou les jeux de hasard en Russie, un paquet de machines qui ont été vendues de la Russie, qui sont arrivées partout en Europe, et par magie, il y a eu des irrégularités au niveau des lots qui ont été gagnés par des gens. Parce que
6 personnes en particulier qui se sont retrouvées devant des machines dans des endroits où, effectivement, c'était filmé. Et puis, les agents qui ont fait les différentes enquêtes ont fini par faire correspondre leur travail puis se rendre compte que ces personnes-là étaient connues du milieu, se retrouvaient au même moment à des endroits différents pour exploiter justement les faiblesses de ces machines.
Ce genre de vulnérabilité là, dans le cas des machines russes, on peut pas déduire ou en tout cas de conclure que les machines étaient particulièrement malicieuses ou conçues comme ça. C'est probablement plus parce que les gens ont trouvé une vulnérabilité ou une faiblesse dans le mécanisme qui ont été capables d'exploiter par la suite. Et c'est un très fort rappel que les machines, en tout cas les gens dans les jeux de loterie ou le jeu de hasard ont des études statistiques très, très fortes, fait qu'ils surveillent énormément les gains, comment les gains se distribuent dans le temps. Donc, s'il y a des gains qui sortent de la normale, ils vont être alertés assez rapidement. Puis c'est très intéressant parce que pour nous qui travaillons en sécurité, où on prêche depuis longtemps de surveiller les anomalies, ce genre, on voit que dans le monde du jeu de hasard, ça fait longtemps qu'ils surveillent et ils sont capables de repérer très rapidement des choses qui sortent de la normale, donc des choses qui sortent parce qu'ils sont vraiment de la normale, fait qu'ils sont capables de les attraper, ce qui mène ensuite à des enquêtes et des choses plus poussées. Cela étant, les présentateurs qui ont une business, donc un intérêt très fort commercial à vendre leur service, ont quand même signifié que même malgré tout, ces casinos ont beaucoup de force au niveau de la sécurité physique, au niveau de ce genre de choses-là. Au niveau des logiciels, sécurité sont aussi mal foutus que le restant du monde. Des logiciels en général, fait qu'ils sont pas plus ou meilleurs que le récent, fait qu'ils sont près avec le même genre de problématiques où ils ne surveillent peut-être pas assez adéquatement leur
en fait, ils sont conscients, mais ça coûte tellement cher, c'est pas leur priorité. C'est pas leur priorité en partant. On commencera pas à faire des assumptions sur le fait que peut-être qu'ils veulent pas dépenser parce que les gains retournés versus l'argent qu'ils font vaut pas la chandelle, peu importe. C'est une question de business. Je serais d'accord avec nous autres. Mais sont très conscients de tout ça. Les deux jeunes qu'on a rencontrés, qu'ils ont fait une belle présentation, sont conscients de tout ça. Ils l'ont vu. Ils ont le discours avec les dirigeants de grandes entreprises. Mais bon, la priorité est pas sur la sécurité. La priorité, c'est de faire des sous.
Ouais, puis c'est comme toute chose. C'est un calcul de risque fait dans leur cas. Puis on parle pas de calcul de risque en sécurité, on calcule de risque en business. Fait que pour eux autres, si les pertes coûtent moins cher que les efforts à mettre pour sécuriser, ils mettront pas le temps là parce que leur business, ça n'a pas d'impact négatif. Puis ça s'applique partout. Puis ça peut être énormément frustrant pour les gens en sécurité qui sont un peu plus puristes. Puis je fais partie de ceux-là, mais faut absolument comprendre que des fois les éléments business sont pas alignés avec les éléments de sécurité, puis il faut faire avec. Et si on a vraiment un case à faire avec ça, fait qu'il faut montrer ça en des termes business, les pertes d'argent, les pertes de choses. Puis à ce moment-là, les gens à faire vont être en mesure de dépenser ou vont être convaincus de dépenser l'argent qui est nécessaire à protéger.
Ouais, moi, challenger par exemple un petit peu là-dessus, mon cher Nico. Il dit ces gens-là veulent des humains qui jouent avec leur machine, qui dépensent leur argent. Je pense qu'ils ont plus à cœur la sécurité humaine que le ratio gain-perte versus les problèmes de sécurité. Tant qu'ils comprendront, peut-être que si on réussit à déterminer que ça peut avoir une incidence à la sécurité des joueurs, peut-être qu'ils vont mettre l'effort, mais je pense qu'effectivement, c'est ça. Là, pour les puristes, là, ça y a pas de quoi. Assez. Vous avez la solution, vous l'avez. Vous l'avez, mais présentement, c'est le ratio gain-perte. Gain-perte versus la dépense en sécurité. Je veux avoir plus de gains, moins de pertes. La réponse, c'est non. C'est le même nombre de joueurs, c'est les mêmes pièces qu'ils mettent dans les machines, c'est les mêmes gains, c'est les mêmes pertes. La machine, elle marche-tu? Elle marche-tu comme du monde?
C'est ça.
Vous savez, comme moi, les machines sont surveillées. Du moment qu'il y en a une qui paye trop, le lendemain matin, il y a un trou dans l'allée. Puis une heure plus tard, il y a une nouvelle machine.
Puis il rattrape tout ailleurs.
C'est ça.
De toute façon, il y a des mesures compensatoires que là. Puis je pense que jusqu'à présent, je pense pas que jouer au casino est un risque humain où il y a des risques qui peuvent sur des vies humaines. Puis ça, j'ose espérer que même les propriétaires de casino vont quand même mettre de l'avant la vie humaine versus les risques de sécurité. Là. Dans ce cas-ci, c'est pas un risque énorme. Si on parle de choses comme d'infrastructures comme Hydro-Québec, où là, effectivement, il peut y avoir des éléments qui ont des impacts négatifs sur la vie humaine ou la sécurité des individus. On parle pas exactement du même préoccupation, disons.
Non, là, on a un service essentiel public. C'est pas pareil. Non, on n'est pas dans la même ligne.
C'est pas la même chose.
Hey, on a oublié une conférence qu'on a eue hier. Une conférence que j'ai aimée, mais que j'ai pas trouvé assez intrusive. Je l'ai trouvée pas assez intrusive. On parle beaucoup de voitures connectées. On parlait du fameux VNet. Conférence de samedi. On voulait nous expliquer, le titre de la conférence portait beaucoup à confusion parce que c'était vraiment là, voici le kit parfait pour pirater les voitures connectées. Non, petite erreur. On nous a parlé du modèle d'architecture proposé pour un éventuel réseau local, dans une ville où toutes ou la majorité des voitures pourraient être connectées, donc des modules dans des voitures, mais des antennes qui se parlent, mais toutes tes voitures comme des êtres humains qui se parlent. Salut, je suis là derrière toi à 30 mètres. Salut, je suis à côté de toi à 2 mètres. Salut, je suis en avant de toi. On nous a expliqué que présentement le réseau est bien, c'est bien pensé, c'est très bon opérationnellement. Toutefois, les deux garçons, ce qu'ils nous ont présenté, oui, deux garçons pas très vieux, un excité, l'autre un peu moins, donc une présentation un peu mitigée, mais bon, malgré tout, ça devenait quand même intéressant. Ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que avec le modèle proposé présentement, s'il est mal sécurisé, autrement dit, les modules, autant dans les voitures, autant les tours de communication qui génèrent le signal, ça vient créer ce qu'on appelle un single point of failure. Autrement dit, la chaîne en soi est un maillon faible. Il s'agit d'être stationné à un endroit, de pirater un seul véhicule, on est dans le système, sans se déplacer. Et puis là, on a un accès inconditionnel à tout ce qui se passe sur le réseau. Où sont les voitures?
C'est justement le problème, parce que c'est un réseau qui est mesh. Fait que toutes les voitures se voient entre elles. Donc, si t'es capable d'accéder à une voiture et la casser, elle est fondamentalement trustée et de confiance pour les autres. Donc, elle est capable de propager un message à travers tous les autres véhicules. Et à ce moment-là, t'es capable de foutre la merde dans la plupart de tous les véhicules qui font partie du même réseau, du VNet, je pense qu'il appelait.
Le VNet, oui. C'est ce que les jeunes ont fait hier. Ils ont voulu, justement, démontrer qu'ils pouvaient capturer des paquets, les transformer et puis renvoyer un signal, mais avec une instruction non désirée parmi tout le réseau de véhicules. Et puis, présentement, dans le modèle proposé, la menace est là. Ils ont-tu réussi? Ben là, je vais dire non, parce que présentement, ça n'existe pas. C'est des modèles proposés. Par contre, c'est un type de menace qui est, selon moi, existant. Le seul hic, c'est que ça manquait un petit peu d'intrusivité. Moi, j'aurais aimé qu'on parle des voitures qui sont déjà équipées de certains systèmes interconnectés. Mais bon, si on parlait de ce qu'on nous propose dans le futur, mais c'était fort intéressant de voir qu'on doit penser à ces menaces-là.
Ouais, disons que leur conférence est un petit peu désorganisée puis se répéterait un peu sur leurs différents éléments. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ont réussi à développer une librairie en Linux qui est capable de discuter avec le protocole, en tout cas du moins l'itération actuelle du protocole, puis de ce qu'ils disent, les protocoles sont adoptés mais non backward compatible, fait qu'en plus c'est un problème, puis c'est un standard qui est toujours en fluctuation, fait qu'il est très difficile d'avoir quelque chose. Et comme les joueurs ont pas l'air d'être très collaborateurs, ou en tout cas ils donnent pas une apparence d'avoir une réflexion commune ou une idée de cohésion, ça change très vite, c'est très difficile, ils ont de la difficulté à voir les choses. Mais au minimal, ils ont réussi à avoir un stack pour communiquer sur ce protocole-là. Puis un des points qui soulevait comme étant problématique, c'est que autant le VNet et l'aspect extérieur, il va se brancher directement sur une canette qui est à l'intérieur du véhicule, qui lui est zéro sécurisé. Fait qu'on tenterait encore de visser de la sécurité sur un système qui n'était absolument pas fait pour ça. Fait qu'on se ramasse encore avec des affaires qu'on expose à autrui, mais qui n'étaient pas faites pour faire ça. Mais bon, c'est fort intéressant. On a encore beaucoup d'années à voir parler des véhicules intelligents, puis ils ont... Personnellement, j'ai une certaine angoisse à savoir que mon véhicule va se conduire tout seul dans un contexte où on peut y injecter des messages puis qu'on pourrait faire des affaires étranges au véhicule. Donc, les deux garçons faisant faire référence, c'est que on peut reprendre le contrôle de mon véhicule, faire d'autres choses avec. Là. Il y a un des stages puis un des types de protocoles utilisés, il y a un takeover possible du véhicule. Fait que ça, c'est un certain degré de confort.
Ouais.
Puis, bon, on va revenir à la journée de dimanche. Puis, pour moi, qu'est-ce que la dernière conférence dans laquelle on a assisté qui était intéressante, c'est qu'il parlait essentiellement des kernels de BSD. C'est-à-dire OpenBSD, NetBSD, puis FreeBSD. La prémisse de la conférence, c'est qu'il disait que statistiquement parlant, Linux a beaucoup plus de vulnérabilité au niveau du kernel depuis X nombre d'années. Puis, le nouveau BSD, les trois variantes qui sont nommées, n'ont pas ce degré de vulnérabilité là. Fait que là, il a pris ça comme à la base. Ensuite, il a commencé à analyser les différents BSD en question. Puis ce qu'on est sorti, c'est que BSD est pas moins vulnérable, c'est juste qu'on ne trouve moins de vulnérabilité. C'est qu'il y a des vulnérabilités qui datent, disons, de 96 et qui, en 2017, sont encore existantes dans BSD. Une fois qu'on les trouve, ils viennent d'apparaître, mais ils ont toujours existé. C'est qu'ils sont là depuis 96 et on ne sait pas s'ils ont été utilisés ou ils étaient connus par des gens qui ne l'ont jamais déclaré. Ça crée un aspect assez...
Mais il n'y a pas de trace de déclaration quelconque de ces vulnérabilités-là ou de leur exploitation.
Non, effectivement. Fait que c'est assez weird comme chose. Fait que ça soulève des choses. Puis même pour OpenBSD qui se tag avec Théodora d'être le meilleur instance, puis il est très... C'est un degré d'arrogance dans les propos de Théodora qui sont fort amusants parce que à certains égards, il a tout à fait raison. Puis pour bousculer un peu ce que Linux est. Mais en même temps, quand on regarde les choses comme elles sont, il est peut-être pas à la hauteur des prétentions qu'il peut avoir aussi. Fait que c'est un peu dérangeant.
Je dois admettre, par exemple, une chose, là. La communauté, je vais l'appeler Linux, là, ou Unix, là, peu importe, là. Moi, Linux, ça existe pas, là. Moi, je viens du monde Unix. Quand vous dites Linux, pour moi, c'est Unix. Bien, je suis assez vieux pour ça. Mais on voit que la communauté open, là, est fabuleuse. Il nous expliquait, entre autres, que le dernier run de vulnérabilité qu'il a fait avec ses scripts, il y en a eu 60 avant de faire sa conférence, avant de s'en venir jeudi. En une nuit, la communauté a réglé 60 vulnérabilités.
C'est Wynet BSD.
Ouais. C'était...
Overnight.
Il y a 60 correctifs qui ont été produits. Ça a été compilé, ça a été retesté. Wow!
Spectaculaire.
La communauté, là, on va leur dire, là, il y a du soutien. Ouais. C'est fantastique.
Sur ce point spécifique-là, le seul point négatif que donné à OpenBSD, c'est que ça a pris une semaine parce que Théo Dorade était en vacances. Fait que c'est peut-être un problème, dans le fond, qu'il n'y a pas de relève. Fait que ça serait peut-être bien qu'il y ait un autre gars que lui qui s'occupe de la sécurité d'OpenBSD. Mais cela étant dit, pour avoir assisté aux conférences de Théo Dorade au Hackfest dans les dernières années, dont Pledge, entre autres, c'est que puis ça fait aussi un lien très fort avec la conférence sur Doom, c'est que même s'il y a des vulnérabilités dans le kernel, comme il a été mentionné de façon puriste, qui sont effectivement existantes, il y a comme Pledge dans OpenBSD qui bloque énormément de problèmes. Et comme dans l'élément avec Doom, il utilisait GR Security. Bon, ça a l'air qu'il y a un monsieur qui a oublié quelque chose dans le restaurant. C'est que ces vulnérabilités-là ont été prises hors contexte. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, comme le gars avec Doom a vu, c'est que GR Security venait bloquer tout. Même si c'est une version de kernel qui était excessivement vieille dans ces terminaux de paiement-là, l'existence de GR Security et la bonne configuration qui est associée vient empêcher toute capacité à attirer quelque chose. Donc, dans un contexte OpenBSD ou FreeBSD, pour un NetBSD, puis je le connais un peu moins, l'existence de mesures compensatoires vient peut-être limiter la portée de ces vulnérabilités-là qui ont été trouvées. Fait que c'est un peu, on peut pas comme lancer, dire que les BSD sont moins bons, mais on peut pas en même temps se vanter sur le nombre de vulnérabilités. On peut pas compter de façon directe que ça a une valeur ou pas. Moi, ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait à jaser. Je pense aussi Vincent.
Ah oui, en termes de sujet, oui. Mais c'est un bel endroit. C'est Vegas.
C'est toujours très agréable.
C'est le fun. Le Caesars, malheureusement, c'était de façon générale, contrairement à v'là deux ans au Paris, cette année, ça s'est fait dans la même zone de conférence. L'escalier roulant qui était unique, les ascenseurs qui étaient encore là uniques. On est 20 000. C'était dans la même zone, il n'y avait pas de séparation, c'était pénible de circulation.
Ouais, c'était un peu
bordel. Les files d'attente étaient, c'était inutile. Par contre, je dois dire, les conférences de 30 minutes versus les conférences d'une heure, on a eu un peu les deux. Et j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça vraiment bien. C'était extrêmement dynamique. Ça, chapeau là-dessus. Ça donne l'impression de voir plus de sujets.
Très intéressant.
Mais en consensus que j'ai avec Nico, les années suivantes, ils vont devoir séparer un petit peu, mettre un meilleur délai de transfert entre les bâtisses, mais ça va permettre de diluer puis contrôler un petit peu mieux la circulation qui était extrêmement dense. Là.
Charger plus que 20 000 personnes dans les salles qui étaient là, il n'y avait pas la capacité d'amener le monde. Puis en plus, le problème, c'est qu'il y avait un nombre d'escaliers roulants qui étaient bloqués par des rénovations aussi. Donc, le timing était pas très bon. Puis moi, cette année, c'est la première fois que je vais dans aucun village, que je vais dans aucun Skytalk, parce que l'accès était tellement difficile, la façon que c'était distribué ne permettait pas facilement, en tout cas, n'incitait pas à ce qu'on aille explorer ce genre de choses-là. Fait que je me suis limité cette année à ne qu'aller voir les conférences, puis un peu rencontrer des gens, mais ça s'est résumé à ça. Fait que j'ai trouvé ça un peu dommage, parce que par les années passées, j'avais beaucoup, il y avait comme une facilité d'accès au village, une facilité d'accès aux éléments autres que les conférences. Cette année, ça paraissait pas aussi évident. Puis j'en parle avec d'autres gens, ce que je n'ai pas fait encore, mais j'imagine que peut-être qu'eux ont vu des éléments différents de ça. Là. Fait que ça fait bon le tour. Fait que sur ça, on n'a pas de shameless plug parce que Patrick nous a fait faux bon. Fait que normalement, c'est lui le porteur des shameless plugs. À part savoir qu'il y a le Hackfest qui s'en vient en novembre, puis les Québec Sec qui sont là, puis proposer vos conférences, on aime toujours ça. Pas plus de choses à dire que ça. Fait que sur ça, over and out.
Over and out.